Radio Foot International.
Antoine Grenier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Radio Foot International sur RFI. Est-ce leur vraie finale de la saison? En tout cas, la première, puisqu'ils se retrouveront en avril. En tout cas, ce jeudi, Manchester United affrontera Arsenal, deux adversaires qui ont un peu perdu le fil de leur histoire ces dernières années et qui peuvent espérer revivre cette saison. Mais ça passe par un bon résultat dans cette 14e journée. Évidemment, un match qui sera suivi de très près par notre diable à nous, notre diable rouge même s'il sait se faire canonnier quand il s'agit de désinguer ce qu'il mérite, autant dire qu'il sera totalement impartial. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Le foot africain également au menu de ce Radio Foot. Deux de plus, deux nouveaux comités de normalisation sur le continent, en Guinée et au Tchad, c'est ce qu'a annoncé la FIFA. Une épidémie, décidément, qui frappe beaucoup le continent. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces comités? À quoi servent-ils finalement? Sont-ils vraiment la solution à tous les problèmes? On posera la question à celui qui connaît les coulisses du foot comme sa poche, notre confrère de l'équipe, Étienne Moïti. Salut Étienne.
Bonjour à tous.
Et question également à Yoro Mangara. Salut Yoro.
Bonjour à tous.
Suiveur assidu du foot africain, lui aussi coutumier des arcanes du foot. On n'oublie pas également le football féminin avec l'équipe de France sur la pelouse mardi soir. Victoire des Bleus 2-0 sur le Pays de Galles. De quoi leur permettre de se rapprocher encore un peu plus de la qualification pour la Coupe du Monde 2023. C'était sous les yeux de Frédéric Suto, envoyé spécial de RFI, que l'on rejoindra en fin d'émission pour évoquer ces Françaises. Pierre-Olivier Guérin est à la baguette, Victor Hull aux manettes. Radio Foot, le coup d'envoi, c'est maintenant. Still, Pierre-Emerick Aubameyang, that's a wonderful finish for the man who just can't stop scoring at Wembley. Salah can go on his own here. Close down quickly now. There's the shot, there's the goal. Mohamed Salah scored again. United score! What a smash and grab! Jadon Sancho. No flag. James to put it on a plate for Lukaku. Here's Harry Kane. Kane goes for it! Le foot en version originale, en anglais, on le rappelle, ce Manchester United Arsenal jeudi. Arsenal au coude à coude avec West Ham et donc en lice pour une place en Ligue des Champions derrière les a priori intouchables Chelsea, Man City, Liverpool. United, lui, est en milieu de tableau, change d'entraîneur, enfin pas encore tout à fait, on va y revenir. Mais sur les deux derniers matchs, les Red Devils ont renoué avec le jeu, la victoire contre Villarreal en Ligue des Champions et la capacité à faire douter un gros, en l'occurrence Chelsea, tenu en échec un partout. Qui va jouer le plus gros, à votre avis, messieurs? On commence par vous, Bruno.
C'est forcément Manchester United, parce que on l'a mis en tout cas parmi les candidats au titre en tout début de saison, et ils sont clairement à la traîne, très très loin du niveau de Liverpool, City et Chelsea. Pour Arsenal, c'est une équipe qui est en train de se reconstruire, donc ils sont déjà à un stade autour de la 5e place, 4e place, qui est déjà presque plus haut que leurs attentes en tout début de saison. Donc clairement, celui qui a le plus à perdre, c'est United.
Étienne, un duel de haut de tableau, Manchester United-Arsenal, ça se prend?
Oui, enfin, c'est un duel qui sent bon le passé quand même. Ces deux équipes-là, forcément, donc ça nous ravive des souvenirs à l'époque où Arsenal était une grande équipe avec pas mal de Frenchies, où Manchester gagnait toujours à la fin et il y avait ce parfum-là. C'est vrai que ça fait un peu bizarre quasiment donc de voir ce match-là, qui est un match, allez, pas de milieu de tableau, mais pas très loin et avec des équipes qui doutent. Mais évidemment, comme l'a dit Bruno, c'est pour Manchester que c'est le plus important parce que bon, Arteta, qui aurait dû se faire virer déjà pas mal de fois, finalement, il est un peu en train de trouver une formule. Et à Manchester, en dépit des investissements invraisemblables qui ont été faits dans le club, ça gagne toujours pas.
Yoro ?
Je pense qu'ils ont tout dit. Man United a plus à gagner pour ce match, puisque déjà, je pense que ce sera la dernière rencontre de Carrick en tant qu'entraîneur sur ce banc. Lui aussi va vouloir quitter avec les honneurs au match nul en Ligue des Champions. C'était une victoire d'ailleurs, match nul face à Chelsea et gagné ensuite face à Arsenal. Il sort grandi quand même si c'est une courte période, mais il va partir avec quoi? Deux victoires et un match nul. Après, s'il veut rebondir, c'est toujours bien pour son CV. Et je pense que donc, ils ont tout à gagner aujourd'hui, même si aussi du côté de Arsenal, depuis 4 ans quand même, ils ratent le Big Four. Ce serait bien d'essayer de revenir un petit peu parmi les grandes équipes de cette première ligue.
Michael Carrick, vous en parliez, l'entraîneur intérimaire donc de Manchester United. Il sera remplacé par Ralf Rangnick,
l'Allemand. Encore qui... un intérimaire, sans doute, d'ailleurs.
A priori. On va y revenir, Ralf Rangnick, qui est pas sûr qu'il ne sera pas sur le banc face à Arsenal, pour des raisons administratives, nous a expliqué Michael Carrick.
Rangnick attend toujours ses papiers pour pouvoir travailler et je n'ai rien de nouveau à vous annoncer sur ce sujet. Le processus d'obtention du visa suit son cours. C'est le statu quo, comme lors des rencontres face à Villarreal et Chelsea. Je serai sur le banc pour le match contre Arsenal et je fais en sorte que mes joueurs soient prêts. La situation reste la même que lors des deux rencontres précédentes. Je n'ai pas encore pu parler à Rangnick puisqu'il est occupé par ses démarches administratives. On va tenter de continuer à faire ce qu'on fait, comme on l'a fait lors des deux derniers matchs, en espérant que ça fonctionnera bien face à Arsenal.
Bruno, c'est une drôle de situation. On a l'intérimaire qui attend l'intérimaire, mais l'ombre du futur intérimaire plane, va forcément planer sur l'actuel intérimaire un petit peu.
Oui, ça traduit un peu le, on va dire presque l'amateurisme d'un club comme Manchester United, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué d'avoir au Royaume-Uni aujourd'hui le visa pour travailler, et ils auraient pu démettre de ses fonctions Ole Gunnar Solskjaer après Manchester City. Après la défaite contre City, il y avait une trêve internationale, donc une coupure de 15 jours. Donc ils auraient pu gagner du temps pour ce visa. Et à l'époque, ils espéraient encore que Solskjaer allait pouvoir redresser la pente. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est un peu la lignée de United depuis quelques saisons déjà. C'est un peu dans l'à peu près. Maintenant, il faut être sûr qu'il ait son visa. Parce qu'il y a quand même malgré tout des doutes. Selon les règles du Royaume-Uni, il n'a pas suffisamment travaillé à un poste d'entraîneur sur les deux, trois dernières saisons pour l'avoir automatiquement. Donc voilà, après je pense que la puissance et l'influence d'un club comme United doit pouvoir obtenir ce visa.
Mais ça reste un drôle de début de mandat, entre guillemets, Étienne, pour un entraîneur comme Rangnick, qui en serait à sa première expérience en Angleterre, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est curieux comme début.
C'est parfaitement illisible. Vous avez donc un ancien du club qui prend l'équipe quand l'entraîneur se fait virer. Là, pour le coup, on est sur du classique. Mais on a envie de dire pourquoi est-ce qu'il ne continue pas jusqu'à l'arrivée de l'entraîneur que vraiment Manchester United veut. Arrive là, pour le coup, quelqu'un qui a de l'expérience, qui est plutôt âgé, qu'on n'attendait pas donc sur un banc comme celui de Manchester. Mais je dirais pourquoi pas. Et donc lui viendra faire un intérim, un deuxième, en attendant que le vrai entraîneur arrive, tout en restant ensuite consultant pour le club, consultant technique. Franchement, moi, je ne comprends pas. Il faut que Bruno m'explique.
C'est un peu flou, effectivement. La volonté, la priorité des dirigeants d'United, ce serait d'avoir Pochettino, qui est sous contrat au PSG.
Il voulait Pochettino. Ça nous a pas échappé.
Voilà.
Ça a échappé à personne.
C'est important de le rappeler. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il est sous contrat malgré tout. Même à la fin de la saison, il est sous contrat au PSG, puisqu'il a été, vu son contrat prolongé d'une année de plus en 2023. Ralf Rangnick, c'est un intérimaire, mais pas totalement un intérimaire, parce qu'il est là, en fait, c'est peut-être le choix le plus cohérent qu'a fait United depuis 4-5 ans, avec quelqu'un qui va amener une vraie politique sportive, une vraie direction sportive, ce qu'il n'y a pas au club depuis des années. Et l'idée, c'est que, et on a vu ça déjà à Leipzig, c'est que parfois il est sur le banc et parfois il est dans les hauteurs du club pour, on va dire, diriger ce club presque, ou du moins la politique sportive. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si Pochettino est un entraîneur qui pourrait travailler avec Ralf Rangnick. Parce que Rangnick, il va diriger. C'est lui qui va être le décideur, presque, au niveau sportif. C'est ça qui est assez bizarre. Et d'autant plus bizarre qu'un intérimaire avec Rangnick, qui est quelqu'un qui a une méthode, une façon, des idées de voir le jeu, des concepts très particuliers, un peu comme... On pourrait le comparer à Marcelo Bielsa. C'est pas quelque chose qui se fait en quelques mois. Ça prend du temps. Donc c'est là où c'est un peu... difficile, et là je suis d'accord avec Étienne, c'est illisible ce que fait United, malheureusement.
Oui, Yoro, Rangnick, c'est en termes techniques, est-ce que c'est un casting qui pourrait aller à Manchester United pour les 6 mois qui viennent?
Qui pourrait, je ne sais pas.
Parce que c'est un constructeur, c'est
justement,
un Galaxy Red Bull.
Quand on l'a vu à Red Bull, ce qu'il faisait le plus, c'est former des jeunes. Là, il n'aura pas des jeunes. Il a Cristiano Ronaldo qui a presque 37 ans, il a des joueurs aguerris, Pogba, etc. Comment il va pouvoir s'intégrer dans un vestiaire qui n'est pas jeune? Moi, j'attends de voir. Après, je ne dis pas qu'il ne va pas réussir. Peut-être qu'il réussira. Peut-être qu'il me fera mentir. Mais je suis sûr que ce sera très compliqué pour lui. Surtout que ça ne tourne pas rond. Si c'était dans le grand Man United qui gagnait, il pouvait s'intégrer de la manière la plus lisse possible. Aujourd'hui, ça ne va pas très bien à United. Venir aujourd'hui faire ce que Carrick a fait, lors du match face à Chelsea dira Cristiano Ronaldo, tu vas rester sur le banc. Il aime jouer les grands matchs. Mais comme lui, Carrick sait qu'il est là par intérim, il va faire 2-3 matchs, il va partir. C'est plus simple de dire Cristiano Ronaldo reste sur le banc. Mais si on est là pour 6 mois, 1 an, on fait comment? On ne peut pas gérer ça. Après, je verrai comment il va essayer déjà d'avoir le vestiaire sous sa main.
Peut-être que l'idée, Bruno, des dirigeants de Manchester United, c'est de dire qu'il sera là sur le banc pour 6 mois. Mais quand on voit comment les joueurs ont lâché Solskjaer, l'annoncer qu'il restera dans le club, ça lui permettra d'asseoir son autorité un peu plus facilement.
Je ne sais pas, les retours qu'on a de certains joueurs, c'est qu'ils sont assez sceptiques par le fait d'annoncer Rangnick jusqu'à la fin de la saison pour rechercher un nouvel entraîneur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où va le club, où va la politique sportive. Maintenant, à un moment donné, les joueurs, ils sont bien gentils, mais les joueurs, ils sont responsables aussi. Et c'est à eux aussi de se montrer, c'est à eux de jouer. Moi, j'ai vu Pogba très enthousiaste, très enthousiaste par l'arrivée de Rangnick. Quelqu'un dont les préceptes, c'est quand même le pressing, les courses à haute intensité, quelque chose que fait très peu Pogba. Il y a de quoi se poser des questions, mais c'est le football. On n'est pas surpris que des joueurs soient enthousiastes quand un nouvel entraîneur arrive, et puis au bout de quelques mois, ça se dégrade.
Voilà, Rangnick, on s'en souvient, c'est l'homme qui avait fait Hoffenheim, le Hoffenheim du milieu des années 2000, qu'il avait fait monter en Bundesliga. Donc il a des références. Il est resté jusqu'en 2011 là-bas, avec un certain Matthias Lieisle, d'ailleurs, l'entraîneur de Salzbourg aujourd'hui, en tant que défenseur, ou encore Dembaba en attaque. Ça reste, Étienne, un entraîneur qui a des références.
Oui, c'est un entraîneur qui a des références, mais avec des effectifs particuliers, comme ça a été dit, avec des effectifs de jeunes joueurs ou de joueurs qui sont des joueurs de deuxième niveau par rapport à ce qu'il peut y avoir à Manchester United. Donc moi, je suis un peu surpris. Maintenant, si il arrive d'ailleurs bien sur le banc, qu'il a finalement donc l'autorisation d'entraîner et que ça marche, on peut aussi imaginer qu'à Manchester, ils sont pas plus bêtes que les autres, qu'ils pourraient finalement prolonger un petit peu son mandat si ça fonctionne. En tout cas, c'est ce que je leur conseillerais. Si jamais ça fonctionne, pourquoi est-ce que vous allez chercher un troisième entraîneur? Donc je pense que la fin de saison de Manchester va tout décider, en fait.
Avant de passer à Arsenal, un petit mot sur Michael Carrick. Très court intérim. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Est-ce que c'est Mesk et un numéro dos? C'est plus qu'un numéro 2, finalement, Michael Carrick, sur ce qu'il a montré, sur ces quelques matchs qu'il a pu diriger?
Ouais, moi, il y a des choses qui me surprennent. Je ne comprends pas que s'il était dans le staff de Solskjaer avant, soi-disant des hommes forts de son staff, décideur, penseur un peu de l'approche tactique, etc., et que l'un de ses premiers choix forts, c'était de mettre Ronaldo sur le banc, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Est-ce qu'il n'avait pas l'influence auprès de Solskjaer? C'est assez étonnant. Mais comme le disait Yoro, lui, son rôle, c'est simple, hein, c'est de gagner le peu de matchs qu'il a disputé. Pour l'instant, il fait presque un sans faute. Un nul chez le leader, une victoire à Villarreal qui qualifie United. S'il bat Arsenal, il repousse Arsenal un peu pour la lutte pour la quatrième place. Voilà, il a tout à gagner en tout cas, et quasiment rien à perdre. Et puis après, il faudra voir le rôle qu'il peut avoir aussi au sein du club. Est-ce que Rangnick va s'appuyer sur lui? Est-ce qu'il va le garder dans le staff? C'est quelqu'un qu'on dit brillant en tout cas à United, mais il est encore un peu trop jeune et inexpérimenté pour garder l'équipe jusqu'à la fin de la saison, je pense.
Quelqu'un qui n'est pas jeune et inexpérimenté, c'est l'adversaire de Manchester United, donc jeudi, Arsenal, 135 ans aujourd'hui, messieurs, le club créé en le 1er décembre 1886. Oui, on aurait pu prévoir un jingle joyeux anniversaire, mais on ne va pas chanter pour autant. Arsenal, Étienne, un Arsenal en haut de tableau, c'est déjà pas mal pour Arsenal, mais pas mal de questions encore qui se posent autour de l'équipe.
Oui, le club est vieux, l'effectif est plutôt jeune, a été pas mal renouvelé, il y a eu pas mal de turnover et finalement ça commence à fonctionner avec un vrai jeu de possession. J'ai vu leur dernier match le week-end dernier, c'était vraiment très abouti, ils ont dominé de la tête et des épaules ce match-là avec un jeu assez plaisant. Donc finalement ça donne raison aux dirigeants qui n'ont pas viré Arteta, qui aurait pu l'être à de nombreuses reprises tant les résultats étaient assez désastreux à Arsenal. Voilà, c'est en train d'accrocher, c'est plutôt séduisant, mais bon, les 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions, elles sont chères en Angleterre.
Yoro, quand on parle d'Arsenal, on parle d'une équipe qui a marqué 15 buts en 13 journées. Est-ce que c'est normal quand on a Pierre-Emerick Aubameyang, quand on a Emile Smith-Rowe?
Si on regarde le dernier match, il est tout seul face au but, il la met sur le poteau alors qu'il n'y a plus le gardien, donc C'est vrai qu'en ce moment, il n'est pas très bien.
Il n'est pas très bien.
Pas que lui. Hein.
Mais pas que lui, mais lui, il n'est pas très bien. On sait quelqu'un qui marque 30, 25 buts par saison, 30 buts. Là, il en est à quoi 4, 5. C'est quand même peu pour, pour un joueur de sa trempe. Après, je pense que les Gunners, Arsenal en règle générale, ils ont appris à leurs dépens qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Parce qu'ils ont mis quelqu'un qui a fait plus de 15 ans, voire 17 ans, à la tête de ce club, Arsène Wenger. Il faut construire sur la continuité. Ils ont failli virer Arteta. Ça aurait peut-être été une erreur. Pourquoi pas laisser l'entraîneur mettre en place quelque chose de cohérent. Ils ont beaucoup changé. Comme United, après le départ de Sir Alex Ferguson, ils ont voulu mettre, mais sans pour autant donner du temps à l'entraîneur, parce que quand même, succéder à quelqu'un qui a fait 18 ans au club et qui a toutes les clés, qui a tous les rouages, qui a tout, mais pour remplacer des personnes comme ça, mais ça prendra du temps forcément. Ils ont eu le courage de laisser ces gens-là pendant autant d'années, mais qu'ils laissent leur successeur le temps d'essayer de planifier et de mettre quelque chose sur pied.
Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, on parlait de Pierre-Emerick Aubameyang, seulement 4 buts, lui qui était comme meilleur buteur de la Première Ligue lors de la saison 2018-2019. Mikel Arteta qui, malgré tout, reste optimiste au sujet du Gabonais.
La forme d'Aubameyang est toujours liée au nombre de buts qu'il marque, mais il fait beaucoup de choses à part marquer. Nous avons évidemment besoin de lui parce que ses buts sont essentiels pour notre succès. Lors des précédentes saisons, il nous a montré qu'il était capable de marquer. Aujourd'hui, son objectif est de continuer à faire ce qu'il fait bien et au bon moment, mettre le ballon au fond des filets.
Ce soutien du manager à son attaquant, entre guillemets, vedette Bruno, c'est parce qu'il n'a pas d'autre solution, Arteta?
il peut difficilement dire le contraire de toute façon. Il a besoin de lui. Moi, je pense qu'Aubameyang n'est pas un attaquant, en tout cas pas le profil qu'aimerait Mikel Arteta. Arteta, il se rapproche, en tout cas, ses idées de jeu, ça se rapproche de Pep Guardiola. Aubameyang, c'est plutôt un attaquant de transition. C'est pour ça qu'il brillait aussi à Dortmund. C'est qu'à Dortmund, c'était un jeu qui allait vraiment d'une surface à l'autre, fait de course, de sprint, de ballon en profondeur. Et là, Arteta est en train de mettre un jeu de possession. Donc, ça tourne beaucoup autour de la surface adverse. Et Aubameyang, dans ces petits espaces-là, c'est pas le meilleur pour jouer de haut but. C'est pas le meilleur pour jouer des 1-2, etc. Mais voilà, c'est un attaquant qui a eu des soucis la saison passée, des pépins de physique, mais aussi de familiaux. Donc, il sort d'une saison très compliquée. Et voilà, on est en début d'une construction encore. C'est quand même vraiment un plan de construction qui a été extrêmement secoué depuis l'arrivée de Mikel Arteta. Je ne suis pas aussi optimiste qu'Étienne. C'est encore une équipe. Là, effectivement, le dernier match contre Newcastle, mais c'était Newcastle qui n'a pas gagné un match, qui est catastrophique, qui est franchement un niveau zéro. Quand le niveau s'élève un peu plus, c'est un peu plus compliqué pour cette équipe qui est encore un peu irrégulière. Mais comme l'a rappelé Étienne, parce qu'elle est extrêmement jeune, c'est la plus jeune. Arteta a aligné l'équipe d'Arsenal la plus jeune depuis 2011. Depuis 2011, c'est énorme. Il n'y a que deux joueurs sur le dernier match, ça fait que deux joueurs de plus de 24 ans, dont Aubameyang. Donc voilà, c'est un process, c'est en train de se mettre en place et il faut suivre l'évolution. Il y aura des hauts et des bas et ça sera encore un bon test à Old Trafford contre cette équipe de United parce que là, pour le coup, s'ils veulent récupérer cette quatrième place synonyme de Ligue des Champions, il faut mettre à distance une équipe comme United qui est en difficulté.
En préparant l'émission, je suis tombé sur des articles où en janvier dernier, on disait Arsenal renaît, puis en août, on disait Arsenal au fond du trou, puis ouais. Là, on revient. Comment on peut mettre fin à cet ascenseur émotionnel du côté des Gunners?
Quand vous regardez aujourd'hui l'effectif d'Arsenal, c'est quand même nettement en dessous des grandes équipes de Première Ligue. Donc je dirais qu'aujourd'hui, quasiment, ils surperforment dans les résultats qu'ils ont. Il y a une concentration d'internationaux dans toutes les grandes équipes. Eux, aujourd'hui, on vient de le dire, ils ont un effectif assez jeune. Les vedettes, entre guillemets, qu'ils ont, en plus, elles ne sont pas aujourd'hui très performantes. On a parlé d'Aubameyang. En ce qui concerne Alexandre Lacazette, lui, il sort quasiment pas ou très peu du banc. Donc voilà, il manque quand même des joueurs majeurs pour emmener Arsenal plus haut.
Un recrutement à prévoir ?
Ils ont déjà beaucoup recruté ces dernières années, énormément recruté. Mais oui, encore une fois, ils vont essayer de vendre et recruter. C'est de Arteta travaille de main, vraiment main dans la main avec Edu, directeur sportif. Ça fait un peu jaser d'ailleurs sur les certains choix. Mais effectivement, de toute façon, pour arriver dans le top 4, concurrencer United, Liverpool, City, Chelsea, il faut mettre de l'argent. Hein. Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement.
Mais ce n'est pas forcément...
C'est pas le fort des Gunners. Arsène Wenger, quand il était là, c'était plutôt pour faire des économies. Avec le stade qu'ils ont construit, ils sont repartis presque de zéro. Ça va être compliqué, déjà, d'aller chercher de grands joueurs. Même s'ils avaient l'argent, s'ils n'accrochent pas une place en Ligue des Champions, en étant dans cette sorte de deuxième division, entre guillemets, des clubs, en jouant l'Europa League ou bien la Conférence, ce sera difficile d'avoir des grands joueurs qui veulent, eux, jouer la Ligue des Champions.
Un Manchester United Arsenal qui se disputera évidemment avec une énorme pensée pour Ray Kennedy, qui est une légende des Gunners, qui est décédé à 70 ans. Bruno, Ray Kennedy, c'est le nom de quoi finalement?
C'est un joueur qui est peut-être méconnu en France, mais c'est un très très grand joueur du football anglais qui a porté les couleurs d'Arsenal et de Liverpool, qui a gagné énormément de titres avec l'équipe de Liverpool, l'équipe du milieu des années 70, début des années 80. C'était tout simplement la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe du monde, qui a gagné 4 Coupes d'Europe, 4 ou 5 titres en Angleterre. C'était celle qui roulait sur le monde, et Kennedy était ce milieu gauche, assez élégant, athlétique, belle frappe de balle, qui était un pion essentiel de cette équipe. Et voilà, et les hommages vont être évidemment magnifiques, mais ils étaient partie des grands joueurs, en tout cas du football anglais.
On pensera évidemment à lui lors de cette rencontre. Donc Manchester United-Arsenal qui comptera pour la 14e journée de Premier League. Allez, on part en Afrique.
Rien ne va s'éclater.
On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si.
C'est le retour de la terreur, tous les gamins le chantent en cœur. C'est le foot de bordel, oh le foot de bordel.
On peut tromper une fois une... Non, on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes.
Mais rangez un peu. Je dirais que le prix qu'on paye, c'est quand même le minimum, c'est qu'il y ait un peu de ménage qui soit fait.
Et un coup de balai façon FIFA. La nouvelle est tombée, la Fédération internationale sévit à l'encontre du Tchad et de la Guinée avec la mise en place de comités de normalisation à la tête de ces deux fédérations. Pour les Tchadiens, déjà suspendus plusieurs mois, une suspension levée en octobre. Le couperet est à nouveau tombé, je cite, « au vu de l'incapacité des instances dirigeantes du football tchadien à mener à bien une procédure électorale ». Pour la Guinée, c'est, je cite, là aussi, à la suite de plusieurs irrégularités survenues dans le cadre de la procédure électorale. Étienne Moati, un peu de pédagogie, déjà un comité de normalisation. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est?
J'imagine c'est à normaliser procédure. Les choses, non?
C'est une procédure, c'est quelque chose de fort quand on décide d'instaurer un comité de normalisation à la tête d'une fédération.
Oui, c'est qu'on considère que la gestion n'est pas bonne, donc il y a une gestion, entre guillemets, politique qui ne doit pas satisfaire mais la FIFA, mais si elle ne satisfait pas la FIFA, on voit toujours le mal partout avec la FIFA, mais c'est peut-être parce qu'elle n'est pas satisfaisante et qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et puis il y a aussi un élément qui est extrêmement important pour la FIFA, ce sont les ingérences politiques dans l'exercice d'une fédération, pas simplement en Afrique, même si c'est arrivé assez souvent en Afrique, mais moi je me souviens par exemple pourtant à l'époque où la Fédération française avait des problèmes après Naïsna et qu'il y avait beaucoup d'hommes et de femmes politiques français qui donnaient leur avis et qui commençaient à vouloir un petit peu, entre guillemets, s'occuper de ce qui se passait à la Fédération. Il y avait eu des mises en garde de la FIFA officielle. Pourtant, la Fédération française avait fauté avec Naïsna, je veux dire, devant le monde entier, une grève totalement ridicule. Et bien, la FIFA avait dit non, c'est à la Fédération française et à personne d'autre de gérer ce qui doit s'y passer. Si quelque politique qui soit intervient, et ben nous, on viendra mettre de l'ordre.
Voilà, le comité de normalisation est là, a priori, pour réécrire les statuts, permettre le fonctionnement de la bonne fédération. On va voir que ce n'est pas toujours aussi simple, parce que y a beaucoup de travail, la proximité de la FIFA aussi, qui, on le rappelle, quand il s'agit de l'Afrique, nomme avec la CAF les membres de ces comités. Avec Victor Hull, on a fait un petit montage de déclaration de Mariam Daogabala, la présidente du comité de normalisation de la fédération ivoirienne. Depuis le décès d'Augustin Sidi Diallo, la FIF cherche une nouvelle organisation, mais avec beaucoup de tâtonnements. Écoutez.
Que la FIFA ait un candidat ou pas, moi je n'en sais rien. Mon mandat, c'est de gérer et d'assainir la FIF, de réviser les statuts, de les mettre en conformité avec les statuts de la FIFA.
Et nous pensons qu'au mois de novembre, nous aurons la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire pour voter les textes. Et s'en suivra évidemment en décembre les élections.
Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait texte validé. Pour qu'il y ait texte validé, il faut qu'on ait reçu la dernière version des textes. Nous avons déjà explosé les délais. Donc, ce qui est sûr, des élections le 20 décembre, alors qu'on n'a pas encore évalué les textes, ce n'est pas possible.
Voilà, à se demander qui normalise les comités de normalisation.
On en a connu au Sénégal, personne ne normalise les comités de normalisation. Tout de suite, Étienne parlait de la France. Je me souviens à l'époque, en 2010, avec Naïsna, Ramayad s'était même offusqué du prix exorbitant de l'hôtel Le Dieu Bleu. Et le président de la Fédé à l'époque avait répondu « C'est pas votre problème, madame le ministre, puisque c'est la Fédé qui paye ». Sauf qu'en Afrique, le Sénégal en particulier, en Afrique en règle générale, la FIFA, elle dissout les fédérations parce qu'il y a une ingérence étatique dans des pays où l'État gère tout. Au Sénégal, par exemple, qui paye le salaire de Aliou Cissé ? C'est le Sénégal, c'est l'État, c'est le gouvernement. Qui gère les déplacements des lions ? C'est l'avion privé du chef de l'État. C'est l'État qui met son argent, qui paye les factures, qui paye, il faut payer les primes des joueurs, il faut payer les billets d'avion. Mais tu donnes tout à la Fédé, mais on te dit, la FIFA te dit, bah, t'as pas le droit de regarder où est-ce que tu mets ton argent. C'est ridicule. Et du coup, des fois, ils détournent l'argent, certaines fédérations détournent l'argent du contribuable d'un pays X, d'un pays Y, et à force de mettre leur bille sans résultat, ben, l'État décide, ben, comme c'est eux qui payent, ben, on va dissoudre. Et quand ils dissoudent, il y a la FIFA qui monte au créneau pour dire que non, vous n'avez, c'est de l'ingérence, d'ailleurs on va créer un comité de normalisation. C'est compliqué. Dans des pays comme la France où la fédération est indépendante, elle a son argent, elle gère ses dépenses à elle. Ok, on peut comprendre qu'il y ait cette séparation des pouvoirs, mais en Afrique, ce n'est pas possible, puisque l'État fait tout. Aujourd'hui, qui paye le salaire de Aliou Cissé au Sénégal ? Qui paye le salaire de l'entraîneur de la Guinée ? Qui paye ? Mais c'est l'État, c'est l'État. On signe les contrats dans les bureaux des ministères, parce que c'est l'État qui paye. Et après, on dit, ah ben non, mais vous ne devez pas regarder où est-ce que vous mettez vos sous. Mais il y a un problème. La FIFA n'a pas le droit d'interdire aux États africains, dans ce contexte, aux États africains d'interférer dans la bonne marche des fédérations. C'est pas normal.
Est-ce que c'est pas un moyen d'asseoir le pouvoir de la FIFA, de décider d'instaurer des comités de normalisation ? Étienne ?
Moi, je crois pas, parce que la FIFA, historiquement, elle a toujours, en tout cas les présidents de la FIFA, ont toujours de très bonnes relations avec les fédérations africaines, et ce sont plutôt toujours des soutiens pour le président en place. Sepp Blatter avait une très grande cote en Afrique, il l'a gardé jusqu'au bout, en dépit de quelques turpitudes. Et aujourd'hui, son successeur, Gianni Infantino, il caresse vraiment dans le sens du poil toutes les fédérations africaines. Et pour le coup, il n'a même pas besoin de ça pour être en odeur de sainteté. D'ailleurs, le projet de Coupe du Monde tous les deux ans à la FIFA, il a derrière lui le plus grand soutien de toutes les fédérations africaines, qui voient un moyen peut-être de se qualifier plus facilement et pourquoi pas aussi peut-être de l'organiser. Donc je dirais qu'il doit y avoir quand même des vrais problèmes dans ces fédérations, parce que la FIFA n'a pas besoin de ça pour avoir les voix de ces pays-là.
Il y a une forme d'activisme malgré tout. On voit Gianni Infantino très présent auprès des fédérations africaines. Le Mali et le Cameroun ont été confrontés à des comités de normalisation déjà en 2018, si ma mémoire est bonne. Le Cameroun, dont les élections approchent, hein, le 11 décembre, le nouveau président de la fédération doit être désigné. Le Cameroun, c'est un cas intéressant de ce point de vue-là, Yoro, parce que comité de normalisation, il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, l'élection du président a été invalidée.
Invalidée par qui ? Par la FIFA. La FIFA fait la pluie et le beau temps en Afrique. C'est ça le problème. Aujourd'hui, qui a élu le président de la CAF ? Il n'y a pas eu d'élection. Parce que la FIFA a fait en sorte que même les candidats potentiellement, les gens qui étaient potentiellement candidats, Ils ont été obligés de renoncer. Augustin Senghor, il était candidat pour être président de la CAF. Il a renoncé. Il y a eu cet accord, on dit, ils se sont retrouvés au Caire. Il y a eu une sorte de, voilà, je ne sais même pas quel terme utiliser pour qualifier ce qui s'est passé au Caire. Il y a eu une entente tacite entre tous les candidats. Ils ont décidé qu'il n'y a que moi, Stepé, qui doit être président de la CAF. Les autres ont accepté. Parce qu'un gars comme Augustin Senghor, il ne voulait même pas briguer un quatrième mandat au sein de la Fédération sénégalaise de football. Il voulait partir, il voulait prendre la CAF et après quitter la Fédé. Mais on lui dit non, tu restes, on va te donner un quatrième mandat. Et lui avait annoncé qu'il va partir à la fin de son troisième mandat. Finalement, il reste. Ben après, c'est ça, on essaie de faire en sorte que chacun ait son strapontin et que personne ne gêne l'autre. On a viré le malgache, on a mis Mostepé, parce qu'il serait anglais, parce qu'aussi, il y a des histoires entre anglophones et francophones en Afrique. Les gens, ils ne le disent pas, mais c'est la réalité, parce que la CAF a été gérée pendant plus de 25 ans par des pays francophones. Issa Hayatou d'abord, il est camerounais, après, c'est le malgache Ahmad Ahmad. Il fallait casser ce mythe pour mettre quelqu'un qui parle anglais. Ils ont tout fait pour que ce soit Mostepé, parce que les Anglais ne voulaient plus des francophones à la tête de la Confédération africaine de football. Ils ont tout fait pour que ce soit Mostepé, c'est fait. Eh bien, aujourd'hui, s'ils veulent que la FIFA finance des activités en Afrique, ils sont obligés de se plier. C'est ça la réalité. S'ils ne se plient pas, il n'y aura pas de stats, il n'y aura pas de budget, il n'y aura pas, etc. Parce que nos fédérations dépendent beaucoup de la FIFA. C'est ça la réalité.
Ce que dit Yoro, c'est qu'il y a peut-être aussi, ce que je comprends de ce que peut dire Yoro, c'est qu'il y a aussi une forme de géométrie variable, au sens où on voit mal une fédération européenne. Je n'ai pas de souvenir de fédération européenne récemment mise sous comité de normalisation. Il y a peut-être...
Non, moi non plus. Et puis, ce qui vient d'être dit est parfaitement exact. C'est-à-dire que la FIFA intervient donc au niveau continental en Afrique, ce qu'elle ne fait pas du tout. Par exemple, en Europe, la FIFA ne s'occupe pas de savoir et d'essayer de désigner elle-même qui va être le président de l'UEFA. D'ailleurs, il ne vaudrait mieux pas qu'elle essaye parce qu'il y aurait une volée de bois vert. Et pour le coup, ça a été fait donc, il y a quelques mois en Afrique pour désigner ceux qui doivent diriger la Confédération.
L'Angleterre, il n'y a pas de comité de normalisation dans la Fédération anglaise.
Mais regardez ce que la CAF, ce que la FIFA veut faire en Afrique. Récemment, quand les grands clubs européens ont voulu créer une ligue fermée, mais l'UEFA, aidé par la FIFA, ont dit non. Pourtant, ils veulent lancer une ligue fermée en Afrique. Pourquoi en Afrique? Pourquoi pas ici? Il y a un problème. Si vous dites non, c'est non à tout le monde. Mais pourquoi vous voulez une ligue fermée en Afrique? Comme quoi, oui, c'est tout le temps Al Ahly, le Zamalek, le Raja, le WAC, etc. C'est les clubs du Nord qui gagnent. Ben pour qu'on ait une bonne Ligue des Champions avec un niveau élevé, il faut une ligue fermée. Mais ici, ils veulent aussi une ligue fermée pour qu'il y ait moins de matchs entre Stoungras et Dynamo Kiev. Mais c'est la même chose. Mais ils l'acceptent en Afrique. Ils ne veulent pas que ça se passe ici. C'est le problème. Je ne comprends pas.
Du coup, est-ce qu'on fait du mauvais esprit en liant éventuellement la campagne de la FIFA pour une Coupe du Monde tous les deux ans et cette forme d'interventionnisme permanent?
Déjà, ils ont 54 États. Hein. Donc, il y a 54 qui ont voté oui, c'est toute la Confédération africaine de football.
C'est quand même un jeu de pouvoir et d'influence, surtout. Je ne suis pas sûr que les personnes dont on parle soient là pour régler les problèmes dans le football. Ils sont surtout là pour créer le meilleur exemple, c'est la Coupe du Monde tous les deux ans. En plus, porté par un ancien entraîneur de club qui, à l'époque, quand il entraînait Arsenal, luttait un peu contre les sélections, le football de sélection, parce qu'il trouvait que ses joueurs...
Il luttait même un peu beaucoup.
Mais beaucoup, et il était même fâché avec la Fédération française. C'est juste un jeu de pouvoir, et ça profite à celui, souvent, qui est en haut. Et là, c'est encore une fois une question d'argent, et de se mettre certaines fédérations dans la poche pour, comme tu le disais, porter ce projet de Coupe du Monde tous les deux ans, parce qu'on sait qu'il peut passer grâce aux fédérations africaines, et beaucoup moins avec les fédérations européennes.
Arsène Wenger, qui refuserait donc les réformes qu'il propose.
ce serait une question à lui poser, savoir que quand il était entraîneur d'Arsenal, est-ce qu'il aurait porté ce projet d'une Coupe du Monde tous les deux ans? Je suis curieux d'avoir sa réponse.
Il a eu à répondre à cette question dans une émission où il avait dit, je cite, que les hommes évoluent. Voilà, fin de citation.
Oui, bah quand il passe de l'autre côté de la barrière. Exactement. Parce que moi, j'étais avec lui quand on lui a posé la question, quand il était entraîneur d'Arsenal, ce qu'il pensait de la multiplication des compétitions internationales de sélection, il était contre. Donc en fait, il sert un peu ses intérêts. Toujours pareil.
C'est quoi la clé de tout ça, Étienne?
Ouais, pour ce qui concerne ces deux fédérations africaines, je ne pense pas qu'il faille chercher une quête d'un soutien de Infantino pour son projet de Coupe du Monde tous les deux ans, parce que les soutiens, il les a déjà. Je veux dire, les 54 fédérations africaines sont en faveur de ce projet-là, et quel que soit le dirigeant qui soit à la tête, je ne pense pas qu'il y ait de modification de l'état d'esprit.
Et pour plus d'informations sur cette question des comités de normalisation et notamment sur celui de la Guinée, n'hésitez pas à aller lire l'article de David Kalfa sur le site RFI.fr, un article qui est excellent, comme toujours. Allez, maintenant, direction le foot féminin et direction la Bretagne.
On a une bonne équipe, une très bonne équipe, on ne lâche pas, on est jeune aussi. Donc voilà, il y a de la jeunesse, il y a de l'envie. Donc voilà, pour le maillot, on donne tout le meilleur de nous-mêmes.
La jeunesse et l'expérience aussi au service de l'équipe de France féminine. Les Bleus ont fait un pas de géant vers le Mondial 2023 en battant leur plus sérieuse rivale dans leur groupe, les Galloises. Victoire 2-0 sur des buts de Kadidiatou Diani et Selma Bacha dans un stade de Guingamp, vous allez l'entendre, aux Anges.
On passe à la télé là?
Il n'y a pas de caméra là.
Ah, on passe à la radio.
À la radio.
On a beaucoup chanté et c'était super soirée, hein, Célia?
Oui.
Moi, c'est Selma Bacha, c'est ma joueuse préférée.
Elle a mis un super but.
Ouais, j'aime trop. Ouais. J'ai bien aimé Isadé Almeida, la défenseuse. C'est une de mes joueuses préférées de l'équipe et franchement, j'ai adoré. C'est la première fois que je la voyais en vrai.
Donc le foot féminin, on s'amuse autant que quand on va avoir un match de foot des garçons là.
Moi, je trouve même que c'est mieux. Le jeu est plus collectif et puis tout le monde est derrière les filles, quoi. C'est super.
Leur match juste avant était génial, hein, contre le 15-5 là, ou je sais pas quoi.
Kazakhstan.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ah oui, le 6-0.
Ouais.
À Vannes.
Eh, magnifique. Hein. La Bretagne, ça réussit tout le monde.
Cette équipe de France féminine, là, vous en pensez quoi?
Oh on préfère les gars. Hein.
Mais est-ce qu'elles vous ont plu, là, les Françaises?
Ouais, trop. C'était très bien.
Ouais.
Ils ont bien joué, ils ont bien joué.
Ouais, très bien joué.
Très
ont mis des beaux buts.
Bonjour Frédéric Suto.
Bonjour Antoine, bonjour tout le monde.
On vous a entendu dans le petit florilège de réactions juste avant. Vous étiez au match de cette équipe de France. Belle ambiance, hein, en Bretagne?
Oui. Et pourtant, on était un mardi soir, jour de semaine, coup d'envoi à 21h10. Il faisait aller entre 3 et 7 degrés, mais 8000 personnes hein, au Roudourou. Et vous les avez entendus, tous ces jeunes, beaucoup de jeunesse, de fraîcheur, d'enthousiasme. Alors, il faut dire que la Fédération française de foot, la Ligue de Bretagne avait bien fait les choses en invitant beaucoup de clubs, beaucoup de licenciés, beaucoup de jeunes filles notamment, pour voir cette équipe de France féminine. Et comme ça avait été le cas à Vannes 3 jours plus tôt, eh bien le public était là au rendez-vous et ma foi, la fête était belle, oui.
Pour un match abouti, enfin en tout cas en termes de résultats du côté de l'équipe de France, ce soir les Bleus sont un peu seuls au monde, en fait, on peut le dire, dans leur groupe.
Oui, 18 points, 6 matchs, 6 victoires depuis le début de cette campagne pour le Mondial 2023. On ne voit pas bien comment les Françaises pourraient ne pas terminer première de leur groupe, même s'il reste encore 4 rencontres. Elles ont relégué là les Galloises à 5 points avec cette victoire. Et les autres équipes, on n'en parle même pas, Slovénie, Grèce, Kazakhstan, Estonie, elles sont bien plus loin. C'était le match, vous l'avez dit, a priori le plus difficile, même s'il y aura un déplacement au Pays de Galles au mois d'avril, hein, mais les dernières confrontations, on était sur des scores complètement fleuves, 5-6-0 face au Kazakhstan, 11-0 même face à l'Estonie, 10-0 face à la Grèce. Le match le plus sérieux, c'était hier soir. Elles s'en sont bien sorties, les Françaises, même si tout n'a pas été évident. Deux buts en fin de période à chaque fois, et un score un petit peu flatteur, ce 2-0.
Bruno, le Pays de Galles, en foot féminin, on connaît le Pays de Galles en rugby. On a connu le Pays de Galles à l'Euro masculin en 2016. Le Pays de Galles en foot féminin?
Bruno, il voit tous les matchs, je crois.
Non, mais j'ai vu un bout de ce match-là. Pas en entier, mais ça reste des fédérations, des équipes en construction. On part de très très loin. football féminin, on regarde d'ailleurs les têtes de série de chaque groupe font quasiment tout un sans faute, et souvent avec des scores fleuves. Et à la traîne, toutes les autres nations qui sont en pleine évolution, en plein développement, en pleine construction, parce que malgré tout, le foot féminin reste très très jeune, on reste très très loin du niveau de ces grandes nations qui sont aujourd'hui habituées à faire la Coupe du Monde ou un Euro. Mais même ces grandes compétitions-là, on voit avec l'évolution de l'équipe de France, le niveau de l'équipe de France depuis 15 ans a explosé quasiment. Et malheureusement, ces petites nations-là, surtout le Pays de Galles, qui est coincé quand même avec l'Angleterre, qui a beaucoup de joueuses, qui est une très forte nation pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça se voit dans les scores fleuves qu'on a à peu près dans toutes les qualifications. Je regardais certains scores, parce qu'il n'y a pas que le groupe de la France, mais vous regardez la Norvège 10-0 face à l'Arménie, vous regardez l'Irlande 11-0 face à la Géorgie, l'Angleterre 20-0 face à la Lettonie. Il y en a plein des scores comme ça. On a voulu calquer ces qualifications féminines sur le modèle des hommes, sauf que ce n'est pas du tout le même football. Et quelque part, quelqu'un a créé quelque chose où on était assez tous un peu incertains avec cette compétition qui s'appelle la Ligue des Nations. Et au final, je trouve que c'est une des plus belles inventions en termes de compétition internationale. Et je trouve qu'on devrait faire une Ligue des Nations pour les féminines, pour que ces petites nations comme le Pays de Galles, le Kazakhstan, etc., jouent entre elles. Qu'elles s'habituent à des équipes à peu près de même niveau pour qu'elles progressent. Le but, c'est qu'elles progressent et qu'il y ait une meilleure compétition, on va dire, avec les fortes nations dans le futur, mais pas maintenant, ça sert à rien. Est-ce que l'équipe de France a progressé avec ces matchs-là contre le Kazakhstan ? Je pense pas.
Étienne ? Franchement, d'être d'accord.
Franchement, Bruno, je pourrais le faire rentrer à la FIFA ou à l'UEFA. Il est là, je veux dire, il a un projet clé en main et qui en plus a du sens. Non, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça n'a strictement aucun sens, ces matchs de qualification, mais aucun sens. Je pense que l'UEFA va se pencher très vite là-dessus parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Vous vendez à des spectateurs, à des diffuseurs, des rencontres qui sont des rencontres à sens unique, totalement déséquilibrées, qui finalement ne profite à personne et surtout pas au football féminin ni à sa promotion. Donc je pense qu'un système en effet avec des poules, avec des niveaux va être indispensable parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça et finalement les meilleures nations mondiales, en tout cas européennes du football féminin se rencontrent très peu alors que finalement c'est ces matchs-là qui peuvent assurer la promotion du foot féminin.
Euro en Afrique, la problématique est très différente.
Mais je pense que c'est pareil. Aujourd'hui, vous prenez quelques nations africaines, le Cameroun, le Nigeria, etc. Ces nations, elles trustent. Aujourd'hui, Cameroun face au Sénégal, c'est facilement 7-0. Et même ces nations-là, quand elles viennent en compétition mondiale, lors de la Coupe du Monde, elles prenaient toutes des raclées. C'est pour vous dire que le niveau, il est déséquilibré. Parce que le foot féminin, il est nouveau. Au Sénégal, par exemple, c'est nouveau le football féminin. Le basket, oui, on est très fort au basket. Dans les nations africaines, souvent, les filles ou les femmes, elles préfèrent jouer au basket que de jouer au football. Donc, c'est nouveau. Pour moi, il faudrait faire en sorte que les grandes nations soient exemptées ou elles se rencontrent entre elles pour pouvoir d'ailleurs promouvoir le football. Parce qu'aujourd'hui, vous mettez à la télé, même en D1 ici, ça se voit, Lyon face à une autre équipe, c'est 11-0. Mmh. Mais ça intéresse qui ? Ça n'intéresse personne. Les rares fois où moi je regarde, c'est quand on me dit il y a une rencontre de D1 entre Lyon et le PSG. Mmh. Au moins là, le niveau, il est un peu resserré. On peut avoir 2-1, 3-1 pour l'une des équipes, etc. Mais quand c'est... Le fossé est très grand entre certaines nations et d'autres. Aujourd'hui, pourquoi chez les hommes, l'Afrique n'a droit qu'à 5 représentants en Coupe du Monde ? Justement, c'est pour ne pas...
Ça va changer bientôt.
Ça va changer. Mais si on amenait 15 ou 20 il y a 20-30 ans, Allemagne contre Gambie, ça va faire 20-0. C'était justement pour éviter qu'il y ait ça. Mais pourquoi ils ne le font pas chez les femmes ?
Frédéric Suteau, pour revenir à cette équipe de France, sa domination dans son groupe, elle s'assoit aussi sur son réservoir. On a entendu son nom, celui de Selma Bacha, qui a inscrit son premier but en équipe de France. C'est un peu la révélation de cette rencontre et de ce rassemblement côté bleu.
Oui, complètement. Première sélection contre le Kazakhstan à Vannes. Et puis là, ce premier but splendide, alors qu'elle était entrée quelques minutes plus tôt, Selma Bacha, la Lyonnaise. Alors, elle profite de certaines blessures, Sakina Karchaoui, Amel Majri, qui sont blessées. notamment, hein, mais elle nous montre en championnat tous les week-ends qu'elle fait partie de ces forces montantes. Elle n'a que 21 ans. Et Corinne Diacre, finalement, ça a été un sacré bras de fer avec certaines joueuses, mais elle a réussi, la sélectionneuse, à rajeunir, à renouveler cette équipe de France. Hein. On avait un groupe qui était globalement le même depuis 10 ans et qui est arrivé jusqu'à la Coupe du Monde en France en 2019. Avec des Lyonnaises qui étaient là, et on se souvient du psychodrame il y a un an quand il a fallu écarter, décision de Corinne Diacre d'écarter Amandine Henry, de lui enlever le brassard de capitaine, Eugénie Le Sommer, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, 86 buts qui n'est plus appelé également. Alors certes, elle joue en club aux États-Unis actuellement, mais en tout cas c'est un parti pris de rajeunir l'équipe, et ça apporte beaucoup de fraîcheur sur le terrain. Il y a Selma Bacha, mais vous avez Marie-Antoinette Catoto qui prend enfin toute la dimension qu'on attendait, le Sandy Baltimore, Clara Matteo, Melvin Mallard. Il y a un sacré réservoir, et même le président de la Fédération Française de Foot, Noël Le Graët, trouve cela très très bien. Il parle d'un groupe plus jeune qui joue de façon remarquable. Je l'apprécie, dit-il, en parlant de Corinne Diacre. La fidélité à Corinne commence à payer, a dit il y a deux jours le président de la Fédé.
Oui, c'est une habitude chez Noël Le Graët de soutenir ses sélectionneurs.
Oui, bah, en même temps, il vaut mieux qu'il dise ça, parce que c'est lui qui l'a maintenue en poste alors que tout le monde voulait la virer. Donc, enfin, aujourd'hui, c'est vrai que les résultats sont bons, mais enfin, on vient un petit peu de décrire ce qu'était le panorama du football féminin international. Donc, c'est finalement pas si difficile que ça d'avoir des résultats. Et puis, il faudra qu'il y ait des résultats dans une grande compétition, ce que pour l'instant, Corinne Diacre n'a pas fait. Donc, il faut quand même attendre un petit peu. Ce rajeunissement, il fait plaisir comme ça, mais il faut qu'il se concrétise par un titre.
Elle a changé un peu, Corinne Diacre. Ah bon ? C'est un peu adouci ces derniers temps, non ?
Oui,
C'est allé très loin, disons. C'est un caractère.
C'est-à-dire qu'elle pouvait pas aller plus loin non plus dans l'aspect un peu désagréable avec son groupe de joueuses, et puis avec les médias aussi une communication qui était très très compliquée. Donc on lui a dit de changer, elle essaie de le faire un petit peu, elle y parvient un peu, mais on voit bien qu'elle force quand même terriblement sa nature.
Et Bruno, l'affaire du gang des Lyonnaises contre Corinne Diacre, les relations sont aplanies mais pas forcément apaisées.
Bah non, je pense qu'elles le seront jamais, hein, de toute façon. Moi, je veux bien croire que l'équipe est rajeunie et qu'elle marche. Moi, encore une fois, j'ai vu une partie du match contre le Pays de Galles, qui est pas une grande nation. Dans le jeu, ça n'a pas été extraordinaire. On voit pas vraiment des progrès. Est-ce que l'équipe de France serait pas meilleure avec Amandine Henry? Voilà, il y a rien qui le prouve en tout cas. Je suis encore circonspect par ce qui se passe, et j'attends de voir une équipe de France un peu plus sous pression, parce que là il n'y a pas d'enjeu ou très peu d'enjeux, et j'ai hâte de la voir dans les compétitions qui comptent, compétitions où il y aura de l'adversité, et voir comment elle s'en sort sous la pression en Corinne Diacre.
Frédéric Suto, malgré la victoire, il reste du travail, hein.
Il reste du travail, et ben, comme le disent Bruno et Étienne, il faut attendre une phase finale de grande compétition. Ce sera en juillet prochain, l'Euro en Angleterre. Hein. L'équipe de France dans son groupe avec l'Italie, la Belgique, l'Islande, elle devrait facilement se qualifier pour l'écart. Mais les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, il y aura d'autres rendez-vous. Et là, il faudra forcément en montrer un peu plus effectivement qu'hier soir, parce que les Galloises, même réduites à 10, elles ont été à deux doigts d'égaliser dans le dernier quart d'heure. Hein. Elles l'auraient mérité même.
Merci beaucoup Frédéric Suto, envoyé spécial de RFI donc sur ce match de l'équipe de France. On vous retrouvera certainement à l'Euro justement du 6 au 31 juillet prochain. Merci beaucoup messieurs, merci Yoram Mangara.
Merci à vous.
Merci Étienne Moati.
Mais c'est un plaisir.
Et merci à Bruno Constant.
Plaisir partagé.
Qui suivra évidemment avec assiduité la journée, 14e journée de Premier League, et notamment ce Manchester United Arsenal. Merci à Pierre-Olivier Guérin. Merci à Victor Hull. Demain, retour de la dame à ce micro. Soyez patients, mais d'ici là, amusez-vous bien.
Cette année, le prix Nobel de la